Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va évidemment parler de Telltale, on parlera de Planet Alpha, enfin Telltale et The Walking Dead saison 4, deux épisodes, hein, on verra pour la suite. On parlera aussi de Planet Alpha, de Capcom Beat'em Up Bundle, de Valkyria Chronicles 3 et...
4,
pardon,
oui,
merci.
On peut parler du 3, mais j'ai pas joué, il est Japon exclusif.
Non mais je vous jure, sur ma feuille...
Très niche alors, donc...
Sur ma feuille, c'est marqué 4, je ne sais pas pourquoi. Et évidemment, on ne pourra pas passer à côté, j'ai fait une blague la semaine dernière, mais elle ne l'a pas fait rire, mais bon, c'est pas grave. Hein. De NBA, coup de 2K19.
Il y a eu plusieurs blagues
pourquoi
la semaine dernière.
Pourquoi je dis 2K19 pas... J'ai dû faire cette blague aussi l'année dernière parce que je disais 2K18. Mais bon, on va pas...
C'est pas 2K parce que 2K, justement.
Ouais, mais normalement, si tu dis 2K19 ou 2K19,
tu vois
l'idée,
tu
vois l'idée du...
Ah oui, d'accord. Pardon, ouais. J'ai compris, c'est très bien.
Non, mais c'est très bien. Et évidemment, la chronique jeu de plateau de Jérémy Kletskin et puis le com des coms, et puis vous connaissez le reste du programme. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Corentin Benoît Gonin, des croissants.
Bonjour.
Bonjour Corentin. Et... il est de retour après plein de mois d'absence. La dernière fois, ça devait être en 2017, je pense, peut-être. Non,
c'est possible.
C'est possible.
Erwan... c'était filmé encore là, ça allait plus. Pendant, personne ne sait que je suis totalement nu. C'est bien.
Nous, on le sait.
Et ça met une ambiance de fou dans le studio.
On a chaud, quoi.
Erwan Higuinen des Inrock. Bonjour, Erwan.
Bonjour.
On commence avec toi, Patrick. Ouais. On va parler de...
Réalité virtuelle, ça fait longtemps.
Monsieur,
la réalité virtuelle est toujours là. Elle ne lâche pas l'affaire. Il ne faut pas la lâcher, la réalité virtuelle. Il se passe des choses. Et on va en parler aujourd'hui, les amis.
On n'a pas une heure, hein.
Ah d'accord, non, ok, il faut que j'aille vite
non,
alors.
Non, je dis juste ça.
Ah, mais c'est important, la réalité virtuelle. La virtuelle, on a tendance un peu à l'enterrer alors que c'est faux, il se passe plein de choses. Cette nuit, enfin pour les auditeurs, ça fera déjà quelques jours parce que...
Dans la nuit de mercredi
paradoxe
à jeudi.
Paradoxe temporel de l'enregistrement, Facebook a annoncé l'Oculus Quest. C'est un nouveau modèle de casque plutôt intéressant puisque a priori il se positionne en milieu de gamme entre donc le Go et le Rift. $400, printemps 2019, deux manettes intégrées et surtout une totale autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à brancher. Capteur intégré, c'est-à-dire qu'on n'a même plus à mettre des capteurs dans la pièce. Une cinquantaine de jeux a priori annoncés pour le lancement. Donc, ça, en tout cas, tous les signaux sont ouverts sur ce genre de modèle qui, voilà, $400, on a une machine qu'on se met sur la tête, qu'on lance et ça fonctionne tout seul.
C'est autonome sans fil, il ne faut pas d'ordinateur.
Pas de fil et a priori, il marche tout seul. Voilà.
C'est un peu comme le modèle de Microsoft. Là, de...
Oui, qui est dans un autre domaine, hein, ouais.
Le HoloLens, qui a l'ordinateur embarqué avec lui.
On est sur de la réalité augmentée.
Oui, on n'a plus besoin de PC, donc on est vraiment sur... on commence à avoir des configurations complètement autonomes qui peuvent être plug and play, entre guillemets, et ouvrir des portes en termes d'accessibilité de la réalité virtuelle. Donc, on va suivre ça de...
Je pense que des leçons ont été tirées du succès relatif hein, du PSVR,
justement,
qui était
le PSVR,
bien vendu, bah, justement parce qu'il était simple à utiliser.
Facile à utiliser. Là, on a par exemple appris cet été qu'il avait passé le cap des 3 millions de ventes dans le monde, quand même, le PSVR.
Ouais.
Donc c'est
non,
quand
même vrai succès.
C'est
même
un
relatif,
vrai succès sur, sur un casque haut de gamme. On commence à avoir des chiffres importants. Et puis justement, je voulais vous parler d'un studio que moi j'avais repéré qui s'appelle Shell Games, un studio américain, qui lui a publié un jeu que j'aime beaucoup, dont on n'a pas parlé, je crois, ici. Il faudrait qu'on en parle d'ailleurs. Ça s'appelle I Expect You to Die. Alors c'est évidemment.
Ouais, j'ai déjà entendu parler
de ça. Eh bien oui, c'est gros clin d'œil pour tous les fans de James Bond, vont reconnaître évidemment le clin d'œil à une fameuse réplique de Goldfinger. C'était un escape game en fait qui se présentait. En fait, on incarnait un agent secret dans une ambiance 60s et il fallait s'échapper de situations complètement folles.
Il y a genre une scène où t'es dans un avion et dans une voiture.
Oui, dans une voiture.
Ah, oui,
en fait, c'était vraiment plein de clins d'œil à toute l'imagerie de James Bond des années 60. C'est très réussi et ce studio a quand même annoncé, donc il l'avait publié sur PlayStation VR, Oculus, Oculus, enfin à peu près tout ce qui fait des tournées de la réalité virtuelle en haut de gamme. Et ils ont quand même annoncé avoir fait 3 millions de dollars de revenus sur ce titre. Donc pareil, on commence à avoir des jeux qui fonctionnent bien. Et eux, par exemple, annoncent, là, ils sont à fond, ils sont en train de développer un jeu d'escrime, de combat à l'épée en réalité virtuelle. Et vu voilà, le carton de leur premier titre, moi j'ai plutôt confiance en ce qu'ils vont faire. Et ça fait plutôt envie. Mais en tout cas, donc, on commence à avoir des chiffres en hardware qui sont intéressants. On a des jeux qui commencent à bien se vendre. Quand il y a un bon jeu, ça fonctionne bien. Voilà.
Enfin, mais I Expect You to Die, il est pas jouable uniquement en VR ou
Je crois qu'il est uniquement VR.
Ah ouais, si, tu peux pas y jouer normalement.
Non, pas à ma connaissance.
Ah oui, c'est impressionnant.
Il est vraiment fait pour la VR. Donc à peu près, je crois qu'il est sorti sur à peu près tous les casques haut de gamme. Et un bon jeu, vraiment une vraie trouvaille que peut-être qu'on reviendra dessus un de ces quatre.
T'as joué au Il y a le jeu d'Ubisoft là qui est sorti.
Je pense qu'on en parlera peut-être la semaine prochaine. Ouais. En tout cas, on va en parler. Ouais, on va en parler.
C'est avec quel acteur là?
Elijah Wood. C'était sa boîte de prod, je crois, lui a travaillé dessus. Donc ouais, un gros projet aussi. Donc on en parlera très très prochainement.
On en parlera très vite. On va revenir sur la VR. Hein,
mais voilà. On n'a jamais lâché la VR.
C'est vrai.
Pardon. On poursuit juste le suivi parce que c'est passionnant.
Corentin, on en avait parlé il y a quelques épisodes de cela, ce petit souci entre Sony et Fortnite.
Ouais, pas que Fortnite, hein, tous les autres jeux en fait, et tous les autres constructeurs et le reste du monde du jeu vidéo en vrai. Mais Sony, ça y est, a cédé. Pardon ?
Il y avait Rocket League aussi.
Il y avait Rocket League, il y avait même Bethesda avait critiqué par rapport à Fallout, et Minecraft techniquement.
C'est plus tenable en fait.
Donc, je vais peut-être dire de quoi il s'agit. Du coup, Sony cède enfin sur le crossplay. Donc voilà, Sony avait une politique qui était de fermeture envers les autres consoles concernant ces jeux multijoueurs. En l'occurrence, on pouvait la plupart du temps jouer avec du mobile ou du PC, mais pas avec les autres consoles. Ce qui fait que dans le cas de Fortnite, puisque c'était le cas qui avait vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière et qui avait un peu dérangé tout le monde, faisait que ton compte Epic était lié à une console et une fois que c'était fait, c'était verrouillé, tu ne pouvais plus bouger ton compte, ce qui était embêtant quand tu avais dépensé de l'argent dessus et que tu viens de t'acheter une Switch en disant « chouette, je vais pouvoir y jouer de manière portable ». Parce que le jeu était sorti donc le 12 juin, le lendemain du Nintendo Direct ou le jour même du Nintendo Direct, et c'est à ce moment-là en fait que les joueurs se sont rendus compte mais en fait c'est un peu, je me suis fait avoir là quand même. Bref, donc les gens étaient vénères et donc Sony cet été a dû répondre très très régulièrement à de nombreuses attaques de toutes parts, et là ça y est, donc mercredi, Sony a annoncé sur son blog que ils bougeaient, ils changeaient de position, qu'ils s'étaient rendu compte que la perception des communautés multijoueurs avait changé avec les années, ce qui est vrai d'une certaine manière, et qu'ils pouvaient pas tenir eux-mêmes, c'est un aveu de, c'est un mea culpa d'une certaine manière, et c'est pas que des promesses puisque déjà mercredi ils avaient mis en ligne une bêta de Fortnite compatible avec les autres versions du jeu des autres constructeurs. Donc c'est assez spectaculaire comme changement.
Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'ils n'allaient pas avoir le choix.
On était tous assez d'accord. Je pense que quand même, si la Switch n'avait pas eu ce succès-là, ils n'auraient pas bougé de position.
C'est aussi la force, je crois, de Fortnite, un titre qui est un vrai phénomène.
Double force, t'as raison.
C'est que je pense qu'on n'est plus sur des batailles de clochers avec Sony, Microsoft. Non, on est sur des titres qui sont horizontaux, qui sont sur multiplateformes et qui, eux, sont des vrais phénomènes. Plus que finalement des guerres de paroisse ou de console.
Surtout, c'était une guerre de paroisse qui jouait tout seul dans leur coin. Parce que même Nintendo s'était allié à Microsoft pour faire une campagne marketing ensemble. On voit jamais ça. C'était cet été, c'était pour Minecraft. Play Together. Sur le compte YouTube de Nintendo, t'as le logo de Microsoft. C'est hallucinant.
Non, mais c'est un changement de paradigme. Ça a l'air d'un détail comme ça, mais il y a un changement de paradigme avec des vrais titres transversaux comme ça, très puissants.
Et ce qui me fascine, c'est les bundles console Fortnite.
Je comprends pas non plus.
Microsoft va en sortir un aussi. Il y en a déjà un de Sony PS4. Il y en a un de la Switch. C'est un jeu, normalement les bundles c'est plutôt des exclusivités. Là, c'est un jeu qui est sur toutes les machines et qui est gratuit.
Mais du coup, tu as des biens,
tu as des V-Bucks, voilà.
Oui, je suis d'accord, moi je comprends pas.
Il y en a plus avec le bundle Switch qu'avec le bundle PS4, semble-t-il. Mais enfin voilà, c'est ça l'argument.
C'est des deals.
C'est vraiment étrange.
Et juste dernier point pour en finir, Epic travaille. Et ça, je trouve ça commerçant, sur la possibilité de délinker d'une part les comptes des consoles pour les remettre sur d'autres consoles si jamais ils étaient bloqués, et surtout de fusionner les comptes ensemble si d'aventure vous aviez fait des achats sur une console par dépit, que vous puissiez récupérer vos biens. C'est plutôt commerçant.
C'est eux qui gèrent, en fait. Ils font un peu ce qu'ils veulent.
Mais ils pouvaient dire, tant pis pour vous, de toute façon, Fortnite est un gros succès. Ils pourraient faire une Sony PlayStation et dire, on en a rien à foutre, on joue dans notre coin.
Contrairement à Sony, Epic écoute ses joueurs, ce qui n'est pas plus mal. Erwan, on va en parler, ça va être un gros morceau morceau du mois de... un gros morceau de la fin du mois d'octobre à venir. Je pense que déjà tous les auditeurs, rien qu'en disant ça, savent de quoi je parle, vu qu'il n'y a plus que ce jeu-là à fin octobre. Non, il n'y a pas que ce jeu-là, mais en tout cas...
Il n'y a pas beaucoup de jeux en même temps.
Il y a Smash Bros aussi quand même. Nintendo fan, vous tenez à dire il y a Smash Bros à la fin de l'année.
Mais le 26 octobre, c'est évidemment la sortie de Red Dead Redemption 2 et on a quelques news assez surprenantes.
Mais on sait que c'est un gros jeu, ça va être un très très gros jeu, il va falloir faire de la place sur les disques durs.
Gros jeu dans tous les sens du terme.
Ouais, il semble qu'ils prennent 105 gigaoctets, c'est-à-dire qu'on bascule vraiment dans autre chose. Donc on s'était habitué aux jeux qui en prenaient 40, 50, voire 80 pour les plus gros. Là, on dépasse les 100. Voilà, donc l'installation va prendre beaucoup de place, va falloir supprimer tous les anciens jeux. Voilà.
À partir du moment où on a
la boîte.
Dans la boîte. Il faut 105.
Sans les mises à jour, peut-être les.
Sans les mises à jour, et puis peut-être s'il y a une version download, ça se trouve, ce sera 120.
Les gens vont l'acheter le 26 octobre, et puis ils pourront y jouer début novembre quand le téléchargement sera terminé, s'ils n'ont pas la fibre.
Après, c'est ce qui est écrit sur la boîte du bundle. Peut-être que ça prend plus de place parce qu'ils considèrent d'autres éléments.
Mais c'est vrai que moi, j'ai une machine à 500 gigas, une PS4 de lancement, et c'est vrai que on galère tout le temps à recharger, à effacer.
Un nouveau jeu chasse le précédent, en fait. Spider-Man arrive, il faut effacer Dragon Quest ou l'inverse.
Mais du coup, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver sur l'échelle de la prochaine génération aussi? Est-ce qu'on va pas arriver sur des jeux qui vont systématiser le plus de 100 gigas sur les grosses productions comme ça?
Après, il me semble, sur PlayStation, tu peux brancher un bête disque dur en USB et basta.
C'est vrai, t'as raison.
Et un disque dur d'un tera, ça coûte pas plus trop cher maintenant. Donc, je sais pas.
Non, mais t'as raison, complètement.
Le com des coms de la semaine dernière avec un utilisateur qui s'appelle Troll, mais qui ne troll pas. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ce pseudo. C'est ça, il m'aura fallu 10 ans d'écoute pour daigner poster un message sur ses forums afin de dire un gros merci à Erwan, c'est-à-dire moi, pour sa prise de position. Mais
Erwan,
oui,
bah
non, attends. Attends, la suite.
Il choisit vraiment les bons
mais
messages.
Mais pas du tout. Vous savez très bien que pas du tout. Avec le temps qui passe et les jeux que je vois défiler, j'attache beaucoup d'importance à l'épure d'un game design et depuis quelques années, c'est le grand défilé du contenu jusqu'à la nausée de la tâche rébarbative de l'arbre de compétences à 20 branches. En soi, je n'ai rien contre ces systèmes, mais bien souvent, ils sont implémentés pour répondre à un cahier des charges et ils n'apportent rien à l'expérience du jeu. Le dernier exemple en date pour moi, c'est God of War. Le jeu est très cinématique et se base sur le côté viscéral de ses combats. Ça marche et par-dessus ça. On nous a mis un système ultra lourd d'augmentation de compétences, d'armure, d'armes en menu, de sous-menu, de sous-sous-menu. Ces éléments apportent quoi à l'expérience? Pour moi, rien. C'est la couenne du jambon. Tu peux la manger, mais c'est pas super agréable, alors autant la virer, ton sandwich restera un jambon beurre. Apparemment, les développeurs de jeux vidéo, les journalistes et les joueurs aiment beaucoup la couenne.
Ça dépend comment c'est géré. Moi, dans mon souvenir, dans God of War, on est plutôt guidé, ça se fait pas automatiquement, mais...
Oui, mais il y a des choses qui ne servent à rien. Enfin, je veux dire, mettre notamment les éléments RPG, les éléments RPG dans des non-RPG, que ce soit, on l'a vu dans Assassin's Creed, on l'a vu dans God of War, on l'a vu dans Tomb Raider, récemment.
Dans NBA 2K, on en parle tout à l'heure.
On va en parler dans NBA 2K. Mais c'est des éléments qui mettent en place la logique très connue de grinding, de montée de niveau et tout ça, qui est le truc du RPG. Alors, pourquoi pas dans le RPG? Pourquoi est-ce que ça débarque? Pourquoi est-ce que ça pollue tous les autres genres, c'est
Après,
une grande
tu lui donnes
question.
L'importance que tu veux, enfin, tu peux aussi plus ou moins zapper.
Pas tant, quoi, pour avancer dans
Alors,
le jeu.
Dans God of War, je me rappelle pas, on avait parlé des menus, qui étaient sous-menus assez... mais je me rappelle pas avoir souffert plus que ça.
Mais c'est pas ça qu'ils critiquent. Ils critiquent une uniformisation, finalement, des mêmes choses. On propose toujours la même recette, finalement.
Et puis des trucs qui ne sont pas au cœur du jeu.
C'est un cahier des charges, dont tu parlais la dernière fois.
C'est ça.
Et d'ailleurs, et c'est mon point Mark Brown, parce qu'il y a toujours un point Mark Brown avec moi, il a publié un tweet où il compare tous les arbres de compétences de plusieurs AAA qui sont sortis récemment et c'est les mêmes, c'est hallucinant.
Il y a trois branches à chaque fois.
Il y a trois branches à chaque fois, c'est toujours les mêmes archétypes.
Les armes, le truc.
Franchement, le jour où on met tout ça à la poubelle pour refaire des jeux qui se concentrent sur leur cœur de jeu.
Et tu sais quoi, Erwan, et même le jour où le cinéma vire les blockbusters et fait que du film d'indépendant.
Mais
c'est le même principe.
Du tout, j'adore les blockbusters. J'ai pas arrêté les AAA, j'ai dit qu'à un moment, les jeux d'action-aventure étaient des jeux d'action-aventure et pas des RPG action-aventure grinding MMO multijoueur.
Ben oui, mais c'est ce que malheureusement les joueurs demandent aujourd'hui.
C'est ce que les gens font.
Non, c'est ce que les gens... Bah, pardon, mais va lire les thèses, va lire les réactions des gens, tous les gens qui... Enfin, voilà, les gens demandent ça, malheureusement. Ils aiment ce qu'ils sont habitués, et bon, bah, on peut pas leur en vouloir.
Des joueurs qui adorent aller dans les menus et optimiser leur héros de God of War.
Et je suis d'accord avec toi,
Ouais, non, c'est... ça, va vite, parce qu'il faut le faire, et que t'as pas le choix pour avancer dans le jeu, mais tu t'y passes
non,
pas ta vie.
Non, ouais. On sait très bien qu'il y a des dogmes, et qui sont pas forcément reliés à une volonté des joueurs dans leur ensemble.
Je suis pas aussi convaincu. Après, je pense que les joueurs...
Attends, même Call of Duty, c'est un RPG, quoi.
Oui. Oh non.
Mais si, dans la version multi. Dans la version multi, t'as des grades,
retire les grades.
Tu gagnes des armes, tu...
Retire les grades au jour de Call of Duty, tu vas voir ce qui se passe. Je t'assure.
Bref. Jérémy Israël, donc, qui est notre chroniqueur jeu de plateau, mais qui commente aussi dans les forums, parce qu'il ne va pas s'arrêter pour autant, qui dit pas du tout d'accord avec Erwan. Hein, vous voyez. À propos de Tomb Raider, reviens sur l'écran des modes de difficulté et adapte-les à tes souhaits. Et là, tout ce que tu as détesté disparaîtra comme par enchantement. Et je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible de le faire lors d'une partie en cours, mais le mode difficile est exactement ce que tu recherches. Plus de mode Matrix, plus de remarques de Lara sur ses idées pour résoudre les énigmes, plus de marques blanches sur les murs pour t'indiquer le chemin. Ouais. Et si les passages de shooting deviennent trop compliqués pour toi, j'anticipe, c'est sympa, alors tu pourras régler leur difficulté indépendamment. Les puzzles, les combats, l'exploration ont chacun leur propre curseur et ça fonctionne à merveille. Alors j'ai eu plusieurs remarques.
On a eu plusieurs échanges
sur Twitter notamment, qui m'ont signalé le fait que j'avais oublié de parler de ça. Alors moi, ce que j'ai répondu et ce que je répondrai aussi à Jérémy, c'est que je pense que le mode de difficulté par défaut, c'est la proposition des créateurs de jeux aux joueurs. Après, il y a d'autres modes de difficulté. Et ceci dit, ce qui me gênait, c'est pas autant le fait d'appuyer sur R3 constamment pour voir les trucs en surbrillance et tout ça, c'est avoir l'obligation de looter. C'est-à-dire que si tu dois me faire évoluer ton personnage pour passer la difficulté, etc., tu dois récupérer des branches d'arbres pour avoir des flèches, tu dois ouvrir des coffres pour avoir des loots, pour pouvoir crafter après. C'est cette orientation. Mais bon, bref, on vient juste d'en parler. Mais bon, je voulais signaler, il y a eu plusieurs remarques sur ce mode de difficulté.
C'est qui n'est pas très contraignante techniquement. Hein. Tu appuies sur R1, je crois, tu fais toi-même, tu t'automatises quasiment la création des flèches enflammées. Enfin, t'as des choses, c'est assez léger, quoi. C'est pas non plus un truc où tu passes 2 heures dans les menus de, tu vois, de compétences, etc., dans ton Raider.
Ouais, bah non. Mais, si, quand même. Enfin,
non.
J'ai pas passé un temps fou.
Dans les.
Non,
dans
pas
les
un temps
arbres.
Fou, mais voilà.
Passer dans les arbres, si, mais pas dans les arbres de compétences, je veux dire.
C'est inutile. Et enfin, Palmer, je voulais. Quoi?
Non, on se regarde.
Non, dans les arbres, dans nos compétences, on se fait des clins d'œil.
Ah, mais Tomb Raider, c'est un sujet entre nous.
Voilà. Oh, la private joke que vous avez publiquement commencé sur Twitter, certes.
Ah,
mais bon.
Confiné entre nous.
Et enfin, il fallait que je parle de ce commentaire. On tarde à commencer cette émission qui est déjà bien chargée. Mais quand même, Palmer qui nous dit: vous m'avez super hypé avec Behind Every Great One. Du coup, j'y ai joué et ce jeu est nul. il n'y a aucune subtilité. Non, mais c'est intéressant parce que son propos est intéressant. Il n'y a aucune subtilité, les dialogues sont grossiers et la tentative de verbaliser une prison tacite et mentale échoue complètement. À la fin du jeu, je me suis retrouvé malgré moi à me dire: oh bah heureusement que je suis pas comme ce gros con de Gabriel, hashtag Nuttallman, au lieu de me remuer et de me pousser à l'introspection et à la remise en question de ma pratique quotidienne, du foyer et de ma vie de couple. J'en suis sorti simplement satisfait de ne pas être désagréable et agressif avec ma copine. Et ce qu'il explique ensuite dans son commentaire, c'est que voilà, c'est pas un jeu, c'est un jeu qui reste finalement assez premier degré et qui est pas forcément pour les gens qui sont déjà renseignés sur les notions de charge mentale, les notions d'égalité, les notions de genre et de relations de pouvoir dans le cadre du genre. C'est vrai que c'est un...
Il est très démonstratif.
Il est très démonstratif.
Étonnamment, je trouve qu'il fait justement l'introspection dans son post sur le forum, finalement, d'une certaine manière.
C'est vrai que ça, pour moi, ça peut aussi...
C'est
une réaction assez logique des gens qui s'intéressent déjà aux logiques de pouvoir, de genre, de domination et d'oppression. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, le jeu est un peu premier degré. D'accord. Après, j'ai trouvé intéressant d'en parler parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas forcément très très souvent dans le jeu vidéo et que ça a permis après d'avoir une discussion autour de cette table sur le sujet. Mais merci Palmer pour ton impression. Voilà, on va donc commencer avec le programme chargé de la semaine parce qu'il faut parler de ce qui s'est passé chez Telltale et pour commencer à en parler, on écoute The Walking Dead.
Lee. His name was Lee.
I can't imagine what that must have been like. People leave, they die, there's less of us all around. It's hard to survive too long these days without being a bit troubled.
We gonna do it? We're doing it.
La grande nouvelle de cette semaine, c'est évidemment l'annonce hyper brutale de la fermeture de Telltale. Enfin, la fermeture, ils ont viré 250 personnes sur 275 et viré d'une manière ultra violente, c'est-à-dire, venez en réunion, hein, vous venez tous en salle de réunion, vous avez une heure pour partir, on ferme les portes.
30 minutes.
Oui, c'est une violence.
Assez dingo qui aurait été, d'après un article de Variety, suite à
des désistements de soutien, c'est
de Lionsgate, de Lionsgate qui serait reparti, enfin qui aurait décidé d'arrêter de subventionner les trucs, et voilà, du coup en fait tous les projets en cours sont annulés sauf les 25 personnes qui vont bosser sur le Minecraft Story Mode
en partenariat
avec Netflix et essayer de finir ce truc. Mais The Walking Dead saison 4, pour l'instant, alors il y a des rumeurs, on va en parler, mais s'arrête au deuxième épisode de la saison 4 sur les 4 épisodes. Erwan ?
Déjà, le fait que tout s'écroule à cause d'un contrat, ça montre bien qu'il y avait un problème de gestion à la base. De toute façon, on a vu Telltale multiplier les produits, licences, qui coûtaient je ne sais pas combien pour acheter Batman, Game of Thrones, Borderlands, etc. On a vu Telltale dont les jeux, le moteur, voilà, c'était pas techniquement, il y avait des problèmes. On a vu des jeux aussi. Moi, je me suis toujours intéressé à leurs jeux. Il n'y a rien que je trouve vraiment complètement nul. On a vu les game designers qui, sur certains jeux, tentaient des choses qui n'étaient pas adaptées. Les scènes d'action dans le jeu Guardians of Galaxy. Dans les deux épisodes, que moi je trouve vraiment bien, les deux épisodes de The Walking Dead, qui sont sans doute les derniers de la saison 4, qui devaient en compter 4.
Il porte très bien son nom, ce jeu, maintenant.
Il y a aussi des scènes d'action que je trouve assez pénibles quand on doit attaquer les zombies, les éviter. Je trouve que ce n'est pas fait pour ça. Il y avait un problème. C'est le problème un peu habituel, c'est-à-dire qu'il y a un problème de gestion.
En début d'année, ils avaient annoncé passer sur Unity ou ils avaient enfin décidé de changer leur moteur.
Et ça fait un moment que ça se passe pas bien. Enfin, on en avait parlé. J'avais fait une news il y a quelques semaines de ça, en disant que bon, effectivement, ils avaient prévu de changer de moteur, mais on avait eu des échos, des ventes des derniers jeux qui étaient très mauvaises, vraiment, qui étaient moins bonnes que leur premier jeu. Je crois que c'était terrible. Ce qu'on garde, il y a un gâchis, il y a vraiment un sentiment de gâchis de voir ce studio fermé. C'est jamais joyeux, surtout dans des conditions pareilles, de savoir que voilà, des gens arrêtent de travailler, c'est toujours terrible. Mais il y a un vrai phénomène, un sentiment de pourquoi. Enfin, c'était quand même un studio qui était bien né, quand on se rappelle, quand il est lancé par des anciens de LucasArts.
Qui a une image extrêmement sympathique au départ. Quoi.
Et complètement, qui arrive avec des jeux au début sympas, puis peu à peu, il commence à affiner une patte. Et puis, évidemment, il y a le phénomène The Walking Dead. Et là, je pense que l'erreur, elle vient de là. C'est que je pense que pour eux, le succès de The Walking Dead, il venait d'une licence qui, effectivement, à l'époque, était très hype. Mais pour moi, le succès de The Walking Dead, c'était pas la licence. Finalement, le jeu, qu'est-ce qu'il avait de raccord avec Walking Dead ?
Un personnage.
Il avait un raccord, vraiment.
Un univers.
Mais la force n'était pas là. La force, elle était dans l'écriture. Elle était dans ces personnages nés dans ce jeu qui nous ont tous marqués, cette relation entre les deux personnages principaux. C'était pas la licence. Non. Et je pense que l'erreur, le malentendu qu'il y a eu, pour faire très grossièrement, chez Telltale, c'est de se dire grosse licence égale gros succès derrière. Il n'y a pas, ils ont enchaîné, on sait tout ce qu'ils ont fait derrière. Et alors que c'est pas ça qui
fait. Avec des essais qui étaient intéressants. Le Fable, The Wolf Among Us.
Il n'y aura pas d'épisode 2, d'ailleurs.
Il n'y aura pas d'épisode 2.
Qui était en prod, je crois, qui était annoncé.
C'était
ce qui arrivait après Walking Dead, donc c'était super intéressant. Walking Dead qui venait d'un comics. Et Fable qui était aussi un grand succès de l'univers des comics un peu décalé, c'est-à-dire non super-héros.
C'est l'erreur. Je pense que c'est l'erreur, c'est de se dire, on va multiplier les licences. Regardez ce que fait Dontnod. Regardez Life is Strange, c'est aussi une licence qui se crée par elle-même. C'est ça qui est important.
C'est ça qu'ils n'ont pas fait. Ouais.
C'est de créer ses propres univers, de pouvoir les déployer, et c'est ce qui fait que tu crées la surprise aussi à chaque. Là, Life is Strange, on attend le deuxième parce qu'on sait, on attend ce qui se passe dedans. Là, c'est vrai qu'ils enchaînaient les licences et finalement, il n'y avait plus l'effet de surprise. Et puis effectivement, ils n'ont pas du tout bougé suffisamment leur recette, leur. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que c'était un acteur de premier ordre. Hein. C'est vraiment eux qui ont contribué avec Quantic, avec Dontnod, à remettre le jeu d'aventure graphique en avant. Ils ont vraiment donné un grand coup de pied dans le, dans le genre, je trouve, à l'époque.
Avant et après The Walking Dead saison 1.
Mais par contre, ce qui est marrant, c'est si on voit leur jeu d'avant, on se rend compte qu'ils cherchent avant. Si on lit leur Tales of Monkey, si on joue à Tales of Monkey Island, Jurassic Park, même Retour vers le futur, qui est très très bancal.
Ah, Retour vers le futur.
Voilà, mais on voit qu'ils cherchent une formule. Ils la trouvent avec The Walking Dead, et j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils la trouvent, alors il y a des gens qui s'en vont. Il y a Sean Vanaman et Jake Rodkin qui étaient sur la saison 1 de The Walking Dead, qui s'en vont fonder Campo Santo et faire Firewatch.
Sur d'autres genres.
La direction de l'entreprise aussi, ça bouge. Il y a une culture du crunch. D'ailleurs, c'est aussi une des choses qui fait vraiment bondir les gens, c'est qu'on leur a demandé de venir travailler des nuits, des heures folles pour finir les jeux, et au moment où ça marche pas, on les fait partir au bout d'une demi-heure. Ouais. Voilà.
C'est même plus du crunch, parce que le crunch c'est limité dans le temps. Là, c'était jamais limité dans le temps, apparemment. Tout le temps, c'était permanent.
Et même là, dans la communication, a priori, la communication se tourne vers le rachat des licences, ou en tout cas une possible remise en vente. Et alors que justement, il y a des répliques sur les réseaux sociaux, mais attendez, il y a les employés. Qu'est-ce qu'on fait des employés? Il faut les aider, ces gens-là.
Oui, il y a les gens qui ont fait The Walking Dead, parce que là, ils sont en train de communiquer ce genre, vous inquiétez pas, on a peut-être des partenaires pour finir les deux prochains épisodes de The Walking Dead. Mais c'est en plus, on peut en parler rapidement de The Walking Dead saison 4, qui est un bon début de saison. Ouais. Moi, je trouve que c'est, et tu l'as commencé à le dire, j'ai fait que le premier épisode, mais c'est totalement dans la lignée des trois précédentes. On voit que c'est quelque chose qui est travaillé, que c'est qu'il y a un univers propre à The Walking Dead version Telltale. On retrouve évidemment Clémentine, on retrouve AJ, donc le jeune
AJ qui était un bébé, qui est le personnage qui est né dans ce monde, en fait. Oui. Il n'a vraiment rien connu d'autre. Dans ces deux épisodes-là, ils se retrouvent dans une communauté, comme d'habitude, avec un leader, etc. Mais c'est une communauté d'enfants et d'adolescents. C'est-à-dire que les adultes ne sont plus là. On retrouve aussi des mécanismes. Voilà, le chef qui est perturbé, ou fourbe, ou double. Voilà, on retrouve des choses comme ça. Mais voilà, cette idée de société d'enfants ou d'adolescents, c'est voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, surtout dans ce monde post-apocalyptique. Quoi. Qu'est-ce qui peut renaître là-dedans? On se rencontre aussi, Patrick, tu mentionnais Dontnod tout à l'heure. Effectivement, Dontnod prend un peu le relais de Walking Dead. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Telltale invente moins et Dontnod prend un peu le relais comme ça. Ouais. Dans l'épisode 2, il y a un côté très, très Life is Strange dans les relations entre deux personnages féminins. Je ne vais pas en dire beaucoup plus.
Ils suivent
sur des séquences. Il y a une séquence de nuit où en fait on dessine des constellations sur le ciel. Enfin, je trouve que c'est très la fiction dans l'esprit. Et voilà, et on joue de une jeune fille. Qu'est-ce qu'elle dit à l'autre? Est-ce qu'elle va l'embrasser ou pas? Il y a des choses comme ça qui, mais en même temps, The Walking Dead rebondit un peu en faisant ça. C'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être franchement le nez dans le guidon, de suivre les licences. Ils s'ouvrent un peu à ce qui se passe en dehors sur le jeu d'aventure, ce qui s'est passé entre temps.
Oui, c'est aussi une marque d'intelligence d'écouter ce qu'il y a à l'extérieur et de le questionner. Après,
little too late.
Et puis, alors, ce qui est vrai, c'est que le travail, le cœur du jeu, ce qui dans un The Walking Dead et dans un jeu Telltale, c'est les dialogues, c'est l'univers, c'est l'évolution narrative et un peu le rythme narratif. Donc ça, c'est la base. Après, c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, on a juste l'impression de jouer à un jeu de 2012. Enfin, c'est... c'est pas que visuellement, c'est parce que visuellement, après, le choix esthétique est assez fort chez Telltale, mais c'est juste les mouvements, le fait que ces personnages ne sont pas totalement dans l'univers. Enfin, on sent qu'il y a des choses de cohérence, de moteur physique aussi qui sont, c'est pas top quoi. C'est l'animation, enfin, il y a des trucs qui sont un peu,
c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des phases de jeu qui sont pas adaptées à ça. C'est-à-dire c'est un jeu qui par moment essaie, enfin on peut élargir ça aux autres jeux tels qui essaie d'être autre chose que ce qu'il est, que ce qu'il peut être, quoi. On nous fait un peu chercher des objets en 3D, explorer comme ça, mais on ne nous le fait pas trop faire non plus parce que ça ne marche pas vraiment. Enfin, il y a ce côté un peu bancal qui est à la fois des grandes inventions et quelque chose de bancal qui résume bien Telltale. Il y a quelque chose qui me frappait beaucoup en y jouant, parce que j'ai fait les deux épisodes dans la même journée, en sachant que c'était sans doute fini. C'est ces petites choses qui s'inscrivent à l'écran, c'est Edge s'en souviendra dans nos choix. Non, il s'en souviendra pas. Parce que
Exactement, moi, il y avait plein de moments où j'avais envie de faire des captures d'écran on va tous mourir, tu sais. c'est sûr.
C'est triste.
En tout cas, merci à Telltale d'avoir fait The Walking Dead en 2012, d'avoir, comme tu l'as dit Patrick, un peu tout changé dans l'univers des jeux narratifs, d'avoir permis finalement des jeux comme Firewatch, comme Oxenfree,
comporter un vivier de créateurs, de créatifs.
Ouais. Et d'avoir
il est là aussi l'héritage
qui existe toujours, c'est-à-dire que Telltale a pris la suite de LucasArts d'une certaine façon en se recentrant sur la fiction et moins les énigmes. Voilà, tous ces 250 personnes qui, enfin voilà, il y a pas mal d'autres studios ou d'éditeurs d'Ubisoft, quelques autres qui, voilà, qui leur font des appels du pied. Enfin, il y en a beaucoup qui vont se recaser. On va sans doute retrouver aussi un peu un héritage de ça qui, voilà, pas dans un studio, même si on le trouve chez les gens qui ont fait Firewatch, mais
je trouve que le jeu narratif ces dernières années, ça a explosé en fait dans plein de studios. T'as Campo Santo, t'as tous ceux qui font Edith Finch. Ça. Il y a plein de jeux narratifs sympas, souvent plus à la première personne d'ailleurs, avec ce qu'on appelle les Walking Simulator, mais qui sont tout aussi intéressants d'un point de vue narratif. Même comment il s'appelle Frictional, c'est ça, les gens de Soma, c'est Frictional.
Oxenfree.
Oxenfree, exactement. Enfin, tous ces jeux en fait finalement mettent la narration en avant, même si c'est pas leur genre premier. Je trouve qu'il y a des leçons qui ont été retenues.
Council aussi, qui est, enfin, j'ai pas, il y a 104 épisodes. Ouais. Moi, j'ai fait que les deux premiers, donc je sais pas où ça va. Mais
Kentucky Road Zero aussi, dont on attend le dernier épisode bientôt. J'ai hâte. Mais voilà, donc je pense
Quantique qui continue.
Ouais, Quantique, c'est une autre histoire. Mais du coup, voilà, il y a quand même une culture du jeu narratif qui continue, qui perdure malgré la fin de Telltale. Et heureusement d'ailleurs que Telltale n'était pas l'alpha et l'oméga du jeu narratif. Et puis, bon, comme tu l'as dit, hein, Life is Strange, dont on va voir ce que ça donne sur cette nouvelle saison.
Mais surtout, ils sont libres, Life is Strange. Ils ont pas le carcan d'une licence qui vient d'Hollywood ou ailleurs, où il y a quand même, je pense, des vrais impératifs liés aux détenteurs des droits.
C'est eux qui vendent leur licence.
J'ai envie de dire,
Square, il est comment là-dedans ? C'est Square Enix quand même, Life is Strange. Donc je sais pas trop.
T'as quand même une latitude, je pense, créative qui a rien à voir par rapport à une licence Walking Dead.
Ils en ont d'autant plus que, comment ça s'appelle ? À mon avis, vu que Vampire a bien marché d'un point de vue commercial, je pense qu'ils sont un peu plus légers dans leur tête, parce qu'à la base, Life is Strange, c'est un peu ce qui les a sauvés.
Là ils sont un peu entrés en bourse d'une manière assez fracassante.
C'est très bien vendu et c'est bien, donc tant mieux. Bah, écoute,
on en reparlera de Dontnod et Life is Strange très vite. On est complètement à la bourre, hein, je vous tiens au courant sur l'évolution horaire, mais on va quand même parler, on va quand même faire le programme et on va parler de Planet Alpha. Alors, j'ai pas trouvé le nom du studio. On parle d'une équipe du Danemark. Team Planet Alpha, pratiquement. C'est édité par Team 17. C'est sur tout support, hein, Switch, console de salon, PC. C'est une vingtaine d'euros. Et j'avoue que je serais passé complètement à côté si je n'étais pas tombé sur ton article, Erwan, sur le site des Inrock, sur les perles indées à ne pas rater dans cette rentrée. Donc, j'étais très content de l'avoir. Il est arrivé en première position et il y avait cet aspect que j'aime beaucoup et je trouve qu'il n'est pas assez utilisé dans les jeux de ce type de travelling, en fait. Des jeux de travelling façon Inside ou
Another World
ou Limbo, enfin voilà, pour les jeux plus récents.
Qui était Dan, moi aussi. Limbo, ouais.
Another World, Limbo, c'est des écrans qui changent.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas travelling.
Tu vis comme un travelling.
Mais qui est une nouvelle manière d'aborder un jeu, un type de plateforme, mais qui, on n'a pas l'impression d'être sur du plateforme. On avance, on a ce voyage en avant, même si on peut évidemment retourner en arrière un petit peu. Mais voilà. Et là, on connaissait dernièrement donc Limbo, Inside, Play Dead, donc et cet univers très sombre, un peu pesant. Et ben là, il y a des couleurs, mais plein de couleurs, beaucoup de couleurs, Erwan.
Moi, ce que j'ai écrit, c'est que c'était un peu Inside sur Pandora, la planète d'Avatar. Il y a clairement de ça. On débarque, donc on joue un petit personnage qui fuit, en quelque sorte. On ne sait pas trop bien où il va, etc. Et c'est sur une planète inconnue, dangereuse, avec une végétation luxuriante, des couleurs folles. Enfin, il y a des passages souterrains, il y a des créatures qui apparaissent.
Des créatures façon de grands dinosaures. Enfin,
il y a des créatures qui volent. Vers la fin, il y a une créature volante aussi qui nous guide, en fait, qui nous montre le chemin. Il y a des choses très belles comme ça. Et c'est un jeu qui est un peu critiqué par certains sur le mode. Voilà, c'est très très beau, mais c'est creux, c'est juste de la plateforme, aventure, un overworld, etc. Et moi, je suis pas du tout d'accord. En fait. Je trouve qu'on peut pas, séparer l'action, effectivement, en 2D où on monte, on descend et voilà, il y a des énigmes un peu. Enfin, on peut jouer sur le temps avancé, ouais. Mais je trouve pas ça si important que ça en réalité. Mais bon, voilà.
En plus, les énigmes physiques, de pousser un bloc.
Et quelques phases d'infiltration qui sont pas les plus agréables.
On se cache. Mais ce qui est pas mal,
alors il y a des phases d'infiltration qui sont très bien faites, très bien rythmées, et il y en a d'autres qui sont juste casse-pieds.
Mais des fois,
moi, j'ai fait du YouTube à un ou deux moments parce que j'en avais marre de pas réussir à passer certaines phases d'infiltration.
Il y a des trucs très marrants d'ailleurs, des fois où tu bloques. Il y a un passage d'infiltration, j'en pouvais plus, pareil. Et puis à un moment, j'ai sauté sur place, je me suis rendu compte que ça activait un truc.
Et je vois.
Et ça, c'est super bien pensé. C'est pour ça que je pensais, on parlait tout à l'heure d'un overworld, mais ça m'est revenu tout de suite en tête, ce côté voyage comme ça, où finalement, il n'y a pas de narration. On ne nous explique pas qui on est, ce qu'on fait là. On vit juste les choses. Et c'est vrai que c'est un festival visuel, ce jeu. Il est magnifique. Il a vraiment. Alors des fois, il pique les yeux parce que c'est vrai qu'il y a des profusions de couleurs. C'est un jeu très organique. On remet le mot qui était là. Je crois qu'on avait noté qu'on avait beaucoup parlé de jeu organique, mais c'est vrai ça bouge dans tous les sens. Même les sons sont très travaillés, je trouve, sur les ambiances, sur les créatures qu'on croise.
Il y a un côté biologique, enfin, je sais pas, qu'il y a les plantes qui sont donc de toutes les couleurs. Alors, quand il fait nuit, on est un peu dans une boîte de nuit avec la lumière noire,
une planète de nuit.
Il y a ces grandes créatures façon dinosaures extraterrestres et tout ça, des gros scarabées. Puis après, il y a les robots, parce que la planète est attaquée par des robots, la nature qui se défend contre les robots, et nous on est spectateurs de ça dans cette fuite en avant qui nous fait passer par des sortes de paysages, de grandes scènes de guerre qui arrivent en arrière-plan, parce que évidemment on est sur cette 2,5D qui est super agréable,
mais qui est pas juste du décor, ce qui au fond peut venir là où on est, c'est pas juste une toile plaquée derrière,
exactement. Et là où je trouve que c'est une performance, c'est que ce n'est pas, j'ai jamais trouvé que c'était de mauvais goût, alors que c'est à deux doigts, hein,
c'est des fois
c'est à deux doigts, c'est un peu coloré, c'est comme tu dis, on pique un petit peu les yeux, mais en fait on sent que c'est un choix esthétique. Enfin, on est dans des gens qui on propose ce type de voyage,
ils y vont à fond et ils se font plaisir avec la palette de couleurs. Moi, c'est marrant, ça m'a rappelé un Overworld évidemment, mais aussi toute une vague de jeux comme ça où on était sur une latitude vraiment horizontale, on est en fait sur un rail avec juste ce déplacement. Ça m'a fait penser à des jeux comme Wild Nine, je sais pas si vous vous rappelez Wild Nine à l'époque, ou Pandemonium, des jeux très 32 bits. On parlait la semaine dernière un peu d'un revival 32 bits. Je me dis, il y a peut-être un peu de ça dans la mécanique, comme ça, d'un voyage. Finalement, on est guidé, on n'est pas en monde ouvert, mais on a vraiment quelque chose qui se raconte purement par l'image. Et puis les situations, ces énigmes dont tu parlais, Erwan, justement, qui sont, c'est marrant, c'est comment le jeu arrive à se remettre un peu en question à chaque fois. Il faut trouver une astuce, il faut trouver un moyen de passer. Enfin, il se passe beaucoup de choses en fait en quelques heures de jeu.
Moi, j'aime bien ces passages où justement on doit exploiter à notre avantage l'affrontement entre les créatures naturelles et les petits robots. C'est-à-dire qu'on attire les robots pour qu'un gros monstre arrive et les détruise, et après on peut passer. Parce que nous, on ne peut pas combattre en fait. On peut juste courir, grimper. Il y a un bouton d'action, plus ce truc d'avancer et de reculer le temps. Mais on ne peut pas se battre du tout. Donc s'il y a des robots devant nous, bah faut trouver, et comme en plus on est en 2D, on peut pas passer derrière, etc. Faut trouver un moyen de.
Et moi j'aime vraiment beaucoup ce design. Je trouve que c'est dommage que ce soit pas plus utilisé. Alors peut-être parce que c'est assez coûteux, parce qu'il faut qu'il y ait plein de paysages, plein de variations. Mais où voilà, la caméra est centrée sur ce personnage, et donc il y a cette impression de travelling continu qui est vraiment. Enfin, c'était la force d'Inside, c'était la force de Limbo, et je trouve que c'est vraiment très très agréable. On a vraiment l'impression de partir en voyage.
Dès qu'on bloque, il faut regarder s'il n'y a pas justement un bloc quelque part. C'est vraiment le truc où combien de fois je me suis retrouvé à dire mais qu'est-ce qu'il faut faire, je comprends pas. Le saut est pas toujours très précis, donc on saute un peu dans tous les sens. On essaie de dire il y a un bloc 20 mètres derrière, je vais les puis en fait on le ramène. Il y a vraiment toute cette logique. Je crois que c'était le 100e jeu édité par Team 17
ces derniers temps. Ils ont le nez creux, parce qu'ils avaient aussi le jeu là, Pinball, Yoku's Island, machin.
Oh, c'était bien ça.
C'est pas eux, Overcooked, c'est pas eux aussi.
Si Overcooked, ils l'éditent simplement. Ils le distribuent, un truc du genre. Mais ils ont le nez creux, honnêtement. Team 17, j'étais un petit peu moi-même, et puis maintenant je fais ils ont quand même.
C'est quand même des vétérans aujourd'hui. Hein. Lancé en 90 sur Amiga, Alien Breed, ils étaient vraiment nés avec le. à l'époque Amiga, quoi.
Oui, bon, on va... voilà, bon. Eh ben, d'ailleurs, on va te laisser dans le passé. Ne reviens pas.
Patrick, bon, bah, je ferme la lumière, c'est ça.
Reste dans le passé, car c'est le moment où on va parler de ce bundle Beat'em Up de Capcom. Ouais. Alors, il va falloir que je l'assume, il va falloir que je l'assume.
Oh là,
je ne connais aucun.
Ah, Final
des titres.
Fight.
Ah si, Final Fight. Ah oui, Final Fight, mais je me suis concentré sur
normal,
le... Il y a 7 jeux,
ouais,
7
non,
jeux.
C'est pas choquant.
Et à part Final Fight, voilà, c'est à part Final Fight, je...
C'est normal, c'est pas des jeux forcément très connus. Quand,
c'est de l'arcade.
Voilà, quoi. Ouais, ça vient de l'arcade. Moi, je me régale avec cette compile. Hein, elle est sortie il y a une semaine ou deux maintenant. Elle avait été annoncée, je crois, pendant un Nintendo Direct, si je dis pas de bêtises. Pff, ça fait plaisir, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours aimé le beat'em up parce que c'est un genre qui... Alors, on parlait de voyage tout à l'heure avec...
C'est pas le même, hein.
Non, mais pour moi, il y a toujours eu cette notion un peu de narration dans un beat'em up qu'on n'avait pas dans les jeux en versus fighting. Moi, j'ai toujours aimé ce côté voyage, que ce soit dans un Final Fight ou que ce soit dans d'autres titres, dans les Street of Rage ou autres. Pour moi, il y avait un voyage, il y avait une bribe de narration et j'ai toujours trouvé ça intéressant de voir comment ces jeux racontaient quelque chose, même si dans l'action, on est sur quelque chose de très répétitif. Là, on a une sélection de 7 titres de Capcom. Capcom, donc évidemment, l'éditeur qu'on ne présente plus, qui était vraiment un des spécialistes du beat'em up. C'était vraiment... lui, c'était une vraie signature. Donc, 7 titres. Donc, on parlait de Final Fight, tout le monde le connaît. Enfin, c'est vraiment un des titres qu'on a retrouvé souvent, qui a été réédité sur Game Boy Advance ou sur des virtuelles consoles, je crois. Enfin, on l'a souvent repratiqué. Il y a du King of Dragons, Captain Commando aussi, qui est vraiment un des grands titres de l'époque. Moi, j'aime beaucoup Warriors of Fate, par exemple. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des jeux qui s'étalent entre 89 et 97. Donc, c'est quand même une belle page d'histoire et qui nous permet, un peu comme la collection Street Fighter dont j'avais parlé ici même il y a quelques temps, qui nous permet d'avoir vraiment un suivi de l'évolution de l'art d'un éditeur sur comment il s'est appréhendé, comment il s'est approprié un titre, un genre et comment il l'a fait évoluer. Dans ses mécaniques, en amenant parfois presque une bribe de briques RPG à ses titres, avec des choix d'évolution de personnages dans la partie, etc. Et surtout dans la réalisation, dans l'animation, dans les ambiances. On a, par exemple, on passe de Final Fight, qui est un petit peu daté maintenant, mais qui avait beaucoup marqué les esprits.
Un petit peu daté maintenant.
qui s'appelait Street Fighter 89, d'ailleurs, lorsqu'il était en développement, etc. Donc, il y a toute une histoire aussi. Et ce qui est intéressant, c'est cette évolution d'un genre qui était très à la mode à la fin des années 80. C'était vraiment un des genres locomotives en arcade. Hein. C'était les doubles dragons, etc. Et puis qui a vraiment pâti du carton Street Fighter 2, qui a vraiment mis en avant le versus fighting, qui du coup a embrasé vraiment l'arcade. Et on passe finalement d'un genre qui était locomotive à un genre un peu plus underground, mais qui perd pas du tout de son cachet. Enfin, je trouve qu'il y a des vraies réussites, même dans cette compile. Donc les 5 premiers ont déjà été réédités, je crois. Les 2 derniers, donc Armored Warriors et Battle Circuit de 97, sont inédits a priori en réédition et montrent bien l'évolution dans la réalisation, dans les animations, dans les ambiances et dans la folie même. Il y a une folie dans ces beat'em all, dans ces beat'em up en termes d'ambiance, de baston.
Battle Circuit, c'est complètement dingue.
C'est ouf, avec les super-héros qui tapent dans tous les sens. Mais c'est vraiment passionnant de voir cette évolution d'un genre qui, aujourd'hui, est quand même passé vraiment au deuxième ou troisième, quatrième plan, mais qui reste, encore une fois, fascinant parce qu'à chaque fois, on a une micro-narration. On a des changements d'ambiance d'un niveau à l'autre. Il y a tout un art, il y a tout un code du beat'em up. Et cette compile, elle permet vraiment de varier les ambiances. On a du style contemporain urbain dans Final Fight. On a de l'ambiance à la Golden Axe, un peu avec côté médiéval. On a du futuriste avec des mechas géants. On a vraiment plein d'ambiances, plein de variations sur un même thème du beat'em up qu'on adore. Alors, comme dans la compile Street Fighter, on a une petite composante documentation avec des artworks. On n'aurait pas été contre plus de choses sur des vrais making-of, sur des vraies notes de production. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais...
Encore a-t-il fallu qu'il y ait une équipe de tournage au moment où ils aient fait...
Oui, mais même des making-of écrits, je pense qu'il y a pas mal de choses à documenter. C'est un peu light à ce niveau-là, mais j'ai envie de dire, pour 20 euros, je crois, on a 7 titres, ça fait quoi ? Ça fait 2-3 euros le jeu, enfin... c'est un régal. Enfin, moi, je le conseille évidemment sur Switch parce que c'est quand même des bornes d'arcade qu'on peut balader dans le métro et s'éclater comme ça. On peut jouer à deux. Ça fait, voilà, j'adore ce genre. Hein, je parle dès qu'il y a un titre.
J'aimerais beaucoup pouvoir voir un jour un dialogue entre toi maintenant et ton toi de 1980.
Ah bah, je pense qu'il. Bah, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Il faut absolument voir le spot télé qu'a fait Capcom pour ce jeu. Il y a un spot qu'on voit sur YouTube qui est fabuleux.
À l'ancienne, un peu.
En fait, c'est génial. Il y a 3-4 kids qui sont en borne d'arcade dans les années 80 et t'as Captain Commando qui vient leur dire venez les mecs, je vous emmène en 2018. Ils arrivent. Je vous dis pas tout, je vous spoil pas, mais voyez ce spot, il est à mourir de rire. Il est très très
bon. C'est toi, déguisé.
Vous allez voir, c'est terrible. C'est terrible.
Allez, donc moi, Capcom Beat'em Up.
Je voulais dire un mot aussi parce que moi je suis moins fan de Beat'em Up, moins connaisseur que Patrick, je pense. Mais du coup, il y a effectivement beaucoup de titres que j'ai découverts. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au départ, j'avais l'impression, je me disais, bon, ça va être Final Fight et des skins SF ou Donjons et Dragons de Final Fight. Et en fait, non. C'est-à-dire que les commandes sont les mêmes. Si on va dans le menu pour voir quelles sont les commandes, c'est à peu près pareil tout le temps. Même ça se complexifie. Il y a des coups spéciaux, l'influence de Street Fighter, etc. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a des. C'est un tempo différent, c'est un rythme différent. Ça bouge pas pareil à l'écran d'un jeu à l'autre. C'est pas juste les univers. Et en même temps, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on s'est dit que le beat'em up avait un peu disparu. Moi, je crois qu'en fait, il a essaimé un peu partout. C'est-à-dire que quand on voit certes ceux qui tournent vers le RPG un petit peu, ceux qui ont un monde un peu Donjons et Dragons, moi, ça me fait penser aux jeux de Vanillaware, après Odin's Sphere, Dragon's Crown. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça. Il y en a, il y en a un qui joue, je crois que c'est Warriors of Fate, qui est basé sur le roman des Trois Royaumes, comme le Dynasty Warriors. J'ai l'impression que voilà, ça, c'est un peu la base qui donne Dynasty Warriors après. Il y a aussi des jeux SF. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a... Voilà, à la fois on voit les enfants de Final Fight et après c'est parti un peu dans tous les sens et on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée après ça, mais en fait non.
Voilà, oui, ça a infusé le jeu vidéo, le beat'em up. En fait, c'est le jeu vidéo qui a pris du beat'em up.
Cybride, on parlait tout à l'heure des composantes RPG qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout. Alors, bonne compile, il manque quand même Alien vs Predator qui était une sacrée bande d'arcade Capcom. Peut-être qu'il y aura une version 2 de cette compile avec d'autres titres.
Ouais, ça c'est la limite, c'est-à-dire que par rapport à la période PS2, Xbox, PSP aussi, où Capcom avait sorti des grosses compilations Capcom Classics où il y avait 30-40 jeux. C'était un peu on vous balance tout, vous faites ce que vous voulez avec. Là, il y a une volonté plus d'éditorialisation. Ils ont fait leur compil Street Fighter, il y a eu les compiles Mega Man, il y a eu la compile Disney Afternoon aussi avec les DuckTales, etc.
Oui, c'est vrai qu'il était très thématisé.
Il y a l'idée où on regroupe par genre, par histoire, pour un peu raconter une histoire du jeu vidéo. Moi, je trouve ça intéressant. Après, effectivement, commercialement, il y a moins de jeux pour peut-être le même prix.
C'est vrai qu'il y avait une compile PS1 avec 4 ou 5 disques qui étaient monstrueuses avec tous les...
Chers amis.
Pardon, ouais.
C'est déjà le soir, il faut manger.
Déjà diffusé.
On est en direct. C'est le moment d'accueillir la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Quand Charles Chevalier et Bruno Catala se retrouvent pour imaginer un jeu, en général, on n'est pas déçu. Rappelez-vous de Abyss, une petite perle, ou plus récemment de Kanagawa, qui était une très bonne surprise. Cette semaine, je vais vous parler de leur dernière création, Micropolis. Et vous allez donc construire une fourmilière en assemblant des ressources, en creusant des galeries. Vous allez surtout embaucher plein de fourmis, des reines, des guerrières rouges, des architectes, etc. etc. Et il faudra donc bien planifier tout ça. Le jeu comporte 10 tours. Lors de chaque tour, vous allez pouvoir construire un segment de votre fourmilière et on va se répartir les segments de cette fourmilière comme les parts d'un gâteau. On a une réserve de fourmis guerrières de belles figurines rouges qu'on va utiliser pour prendre les tuiles, les segments de la fourmilière. Le principe est très simple, si vous voulez la première, c'est gratuit. Mais si vous voulez la deuxième, alors il faudra mettre une fourmi guerrière sur la première tuile. Si vous voulez la quatrième tuile, à ce moment-là, il faudra poser une fourmi guerrière sur chacune des premières, deuxième et troisième tuiles. Les joueurs suivants pourront donc les récupérer en bonus en prenant ces tuiles. Sur chaque segment, il y a deux lignes de galeries, deux cercles qui finiront concentriques, parfois reliés, parfois en cul-de-sac, mais qui devront être placés de manière optimisée pour en fin de partie marquer un maximum de points. Sur chacun de ces segments en forme de part de pizza, vous trouverez des personnages avec des pouvoirs spéciaux, des fruits, des emplacements pour les garnisons de fourmis guerrières. Et puis, comme dans beaucoup des jeux de Bruno Catala, on marque des points de plein de manières différentes. En fonction de la galerie la plus peuplée, la plus grande population au total, le nombre de fruits que vous aurez réussi à collectionner, les reines, quand elles seront dans des galeries qui ne sont pas connectées entre elles, vous donneront encore plus de points. Le matériel est très sympa, il y a de belles figurines, il est de bonne qualité. Et les illustrations de Camille Chelsea sont très jolies, un petit peu dans le style de Mille et une pattes, si vous vous rappelez. Je vais être sincère avec vous, c'est pas un jeu qui révolutionne le genre. Ce sont des mécaniques qu'on connaît déjà, qu'on a vu passer quand on joue à beaucoup de jeux. Ça rappelle évidemment King Domino, on retrouve le système de Small World pour le choix des tuiles. Il a pas un relief démentiel, il est pas révolutionnaire, mais il est solide, il marche. Je le recommande vraiment pour les joueurs occasionnels, mais les experts, les vrais experts, ils pourraient être déçus. Je rappelle le nom du jeu, Micropolis, par Bruno Catala et Charles Chevalier, de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est édité par Matagot, et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui n'entraînent aucune confusion entre le réel et le virtuel, puisqu'on est déjà dans le réel. Bye bye.
Bye Jérémy. Merci, hein, merci pour ce retour des jeux de société dans Silence on Joue, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est le moment. C'est ton moment, Corentin. Ouais. C'est ton moment.
C'est mon moment. C'est le moment de briller.
C'est le moment de briller parce que tu as passé ta vie dessus. Parce que à chaque
j'ai
fois,
pas fini.
Et t'as pas fini en plus. C'est Valkyrie Chronicles 4. Ready to engage. We have to unite as one. Otherwise, we'll never make it across the ice. We can do this. They're in range. Commencing counterattack. Die! On est sur du tactical RPG, JRPG pour le coup, ouais. et un bon, et du bon, c'est
oui,
du bon. Hein.
C'est bon, bah, en même temps, Valkyria Chronicles, on va dire que il avait connu son succès à l'époque hein, sur PS3, il est sorti en 2008, il avait déjà été apprécié à sa juste valeur. Je ne connais pas les chiffres sur PS3 exactement, mais j'imagine qu'il a dû marcher correctement. Et il est ressorti sur PC en 2014, et c'est à ce moment-là que moi j'ai découvert Valkyria Chronicles, parce qu'il était accessible, parce que je n'avais pas de PS3 à l'époque. Et ouais, quel claque, c'était cool Valkyrie Chronicles quoi. Donc grosso modo, les personnages d'animé vont à la guerre fleur au fusil pour défendre les valeurs telles que le dépassement de soi, l'amitié par-delà les frontières. Parce que quand je fais un personnage secondaire,
c'est pas la première fois, je crois,
quand je fais un personnage secondaire, il a toujours un accent du sud. Je sais pas
mais pourquoi.
On
a déjà parlé de ce.
C'est pour faire, c'est pour marquer le coup. Je ne sais pas. Bref. Okay. Mais je l'aime bien mon petit personnage avec un accent. Bref. Mais c'était chouette. On était donc. Et alors je vais parler du système de Valkyrie Chronicles parce qui n'a pas fondamentalement changé par rapport au 4, c'est donc, comme tu l'as dit, du tactile RPG, mais sans cases. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un terrain à la troisième personne, totalement libre. On n'est pas limité dans ses déplacements. On peut passer par-dessus des objets. Et quand on se met à tirer, bah, on tire caméra épaule. Hein, donc, un truc très, très, très...
On est limité un peu quand même. Parce qu'il y a un...
Oui, j'y viens. Mais c'est pour dire, voilà, on n'est pas dans ce carcan des cases comme on peut avoir dans XCOM, dans Les Lapins Crétins et Mario, ou dans, Fire Emblem. Là, on se déplace. En fait, notre personnage, il est limité par une barre d'endurance qui est là et qui se vide au fur et à mesure qu'on fait des déplacements sur la map. Évidemment, toutes les classes ont des barres différentes.
Et là où ça reste dans le tactical RPG, c'est qu'on est le commandant et on fait bouger ses troupes une par une et c'est du tour par tour.
C'est du tour par tour semi-temps réel, c'est très bizarre parce que quand on déplace son personnage, en fait, les ennemis peuvent vous tirer dessus si vous remarquez. Donc, le temps que vous vous déplacez, vous pouvez vous faire tuer, en fait. Donc, il faut vite se mettre à couvert. Et à partir du moment où vous mettez à viser, là, par contre, tout se fige, plus personne ne bouge et on peut faire son action. Évidemment, chaque personnage a le droit à une action, sauf exception, par tour, entre guillemets, qui sont représentés par des points de commandement. Et évidemment, on peut dépenser tous ces points de commandement sur la même unité si on veut, ou alors les répartir entre différentes unités. La seule limite, c'est qu'à chaque point de commandement qu'on utilise sur le même personnage, son endurance réduit à chaque fois. Et puis on est limité aussi par le nombre de munitions. Certaines classes comme les snipers, les personnes qui ont des lance-roquettes contre les tanks ou encore la nouvelle classe, les grenadiers qui utilisent les mortiers, ont des munitions limitées, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus utiliser 15 fois le lance-grenade sur le tank pour le tuer.
Ce serait pratique.
Ce serait pratique. Mais on peut, par exemple, avec un ingénieur qui remet les munitions, alterner entre les deux pour, en effet, en finir avec ce tank qui nous bloque le chemin, qui nous ennuie. Et voilà. Et donc, on est sur un système très très particulier mais qui est vraiment chouette. Franchement, je suis pas sûr de voir un autre jeu qui utilise ça. Je crois que le seul autre qui s'en approche un peu et mal en plus, c'est Codename Steam qui était sorti sur 3DS à une époque on était encore limité par des cases.
Mais c'était
aussi de la 3D tactical tour par tour. Alors du coup, Valkyrie Chronicles était ressorti en 2014. Entre temps, il y a eu en 2010 et 2011 le 2 et le 3, mais alors nous on n'a pas trop entendu parler. Le 2 est sorti chez nous, c'était sur PSP. Le 3 n'est jamais sorti
des limites du Japon. Et du coup, le 4, et il y a eu aussi un spin-off action qui n'était pas terrible. Et puis, le 4 a été annoncé. Et là, les mecs, ils ont rassuré tout le monde. Ils ont dit, alors, on va reprendre le style graphique du 1. On va reprendre le système du 1. Et grosso modo, ça sera le 1. Ok, bah, on achète. Moi, je suis d'accord. Et en effet, bah, c'est le 1, quoi. Donc, on se retrouve toujours dans ce monde très inspiré de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
C'est de la fantasy Seconde Guerre mondiale.
Voilà.
C'est JRPG.
Vous voyez. C'est pas vraiment de la fantasy parce que, ouais, alors il y a certaines technologies, ouais, ouais, c'est
le minerai magique que tout le monde se bat pour. Excuse-moi, mais on est quand même assez loin de l'Allemagne nazie, quand même. Mais quand même, on en est proche.
Au final.
Liberté par rapport à la réalité historique.
Il y a un tout petit. Bah non, mais évidemment, ça clairement. De toute façon, les personnages, ils vont vraiment. Ouh, c'est super, on y va, on va se battre et tout contre les vilains de l'Empire. Donc c'est la Fédération, hein, l'Ouest contre l'Empire, donc les méchants nazis, hein, grosso modo, qui font la guerre parce que les vilains nazis veulent envahir les pays de la Fédération, qui
c'est
sont
nazi,
plusieurs pays.
Dans le jeu,
non, c'est non. L'Empire, enfin c'est l'Empire, ouais, les impériaux. Et ils veulent récupérer grosso modo ils veulent récupérer ce minerai qui fait tout marcher, hein, les tanks, les medikits, les bombes nucléaires, même à un moment donné. Alors, c'est des thèmes qui sont abordés tard dans le premier Valkyrie Chronicle et c'est jamais dit comme ça. C'est plein de clins d'œil en fait à des véritables.
C'est lié aux Atlantes ou pas du tout?
Non. En fait, il y a plein de clins d'œil. En fait, il y a des clins d'œil. Il y a quelques clins d'œil à des éléments historiques, mais c'est jamais traité comme tel. Par exemple, dans le premier, on parle clairement d'une population qui est maltraitée pendant ce conflit, mais ils parleront jamais de juifs. Tu vois, ils vont parler des Dark Sense, c'est des personnages qui ont des cheveux noirs et qui ont un peau un peu plus mat.
Mais est-ce que le propos est tenable? Enfin, genre, c'est le propos, on le valide ou
on est sur un jeu qui est.
Ça peut être maladroit. Hein,
on est sur une narration très japonaise. Donc, on est sur du ce qu'on appelle du shonen. Enfin, voilà, on va tous se donner les bons sentiments avant tout. Ouais. On va gagner parce qu'on est gentil. Et c'est comme ça que ça marche la guerre, évidemment.
Ils abordent quand même des sujets un petit peu tendus.
Mais de temps en temps, voilà, ils te surprennent. On arrive dans une ville. C'est quoi ces camps de concentration là? Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le premier. Dans le deuxième.
Moi, j'ai quand même vu une phase de dialogue que j'ai beaucoup. En fait, qui m'a fait tellement rire. Mais elle est prise tellement au second degré. Mais c'est genre à la fin du prologue, quand t'as fini ton premier combat, et là, t'as le commandant, donc ton personnage, qui dit. Les fleurs. On a abîmé les fleurs.
C'est pas vrai.
C'est vrai, je te jure.
C'est très caractéristique.
En haut de son tank.
Vous me l'avez vendu.
Le mec, il est en haut de son tank.
Je prends.
En haut de son tank, il vient de détruire.
Le mec vient de détruire un village.
On a abîmé les fleurs. Abîmé
je
fleurs.
Prends, je prends.
Non, mais
je prends.
Et franchement, c'était très drôle.
Et alors, donc, on a cette narration qui est pas vraiment sérieuse, mais qui quand même arrive de temps en temps à nous surprendre dans Valkyrie Chronicles 1. Je la cherche encore un petit peu, je vous cache pas, dans le 4 pour l'instant, même si je commence à arriver à un moment où je vois venir gros comme une maison un twist qui est que je trouve bien, c'est pas mal, c'est cool, c'est une bonne idée. J'ai eu un peu plus, il m'a fallu un peu plus de temps que pour le 1 pour rentrer dans l'histoire, où j'étais rentré un peu plus rapidement, où les personnages m'y étaient attachés un peu plus, la relation entre les personnages m'étais faite plus rapidement, leur sort me tenait à cœur. Mais là, je dois avouer, et il faut le dire les choses, hein, c'est un jeu où il faut un peu de temps quand même pour entrer dedans, mais c'est souvent le cas avec les JRPG. Hein. On est là et on arrive, on a une montagne de statistiques, de tutoriels. Il y a un temps avant que le rythme de croisière se mette en place. D'ailleurs, belle analogie, puisque je trouve que le rythme de croisière se met en place quand on débloque le bateau, qui devient notre nouveau QG, et on se dirige, on rentre dans un bateau, c'est un énorme bateau, qui c'est un bâtiment immense. Mais là, ça y est, je suis dans ma petite zone de confort, je suis avec mes personnages, je commence à avoir des petites amourettes.
J'ai Corentin, il est content dans ces moments-là.
De ces moments-là où je suis confortable, je suis content de retrouver une équipe.
Parce que c'est ton genre que tu.
C'est un genre que j'aime et j'entends tout à fait que c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais parce que d'autant que entre deux missions qui sont encore une fois très bien game designées, il y a une montagne de dialogue qui est propre au genre. Hein. On aime ou on n'aime pas. Je crois qu'ils sont passables. Il suffit de faire strat pour passer tous les dialogues. On passe un peu à côté de l'intérêt du jeu aussi et je peux comprendre que ça soit pas la cam de tout le monde. Mais c'est vrai que Valkyrie Chronicles 4, tout comme le premier, c'est à moitié un TRPG, mais aussi un visual novel. Et du coup, si on n'est pas
très fan de ce genre d'aspect-là du jeu vidéo, bah, je le conseille pas forcément, même si dans son genre, et si on apprécie les histoires qui peuvent être un peu gnangnans par moment, voilà, et qu'on apprécie les amourettes, qu'on est là à faire oh, c'est trop mignon. Et les fleurs, c'est très important. on peut être rebuté. J'en finis rapidement, mais je voulais juste aborder les nouveautés d'un point de vue stratégique quand même, parce qu'il y a des nouveautés de gameplay. Alors, peut-être c'est apparu dans le 2 et le 3. Désolé, personne n'y a joué, donc je vais quand même évoquer ces nouveautés par rapport au 1. Une nouvelle classe, donc les grenadiers. Donc, alors eux, ils sont meilleurs craqués, mais alors jamais vu ça. À partir du moment où tu sais où il y a une unité sur la map, ils ont une portée mais hallucinante. Ils balancent une bombe, c'est quasiment un one shot sur toutes les unités, c'est hallucinant. Ils sont limités par les munitions aussi et ils se déplacent très lentement. Ils mettent un temps fou à mettre en place leur attirail. On a le commandement, ça c'est intéressant. C'est toutes les unités qui apportent un point d'action, parce que c'est à certaines unités qui sont des chefs qui apportent un point d'action en plus, peuvent commander jusqu'à deux autres personnages. Donc ça peut être intéressant pour amener une unité qui a peu d'endurance à l'autre bout de la map. Voilà, plus rapidement, donc c'est très intéressant. On a le baroud d'honneur, c'est quand le personnage meurt, il se prend une balle malencontreuse, il peut faire une dernière action avant de mourir, et il va inspirer ses collègues, donc l'unité la plus proche va avoir un boost de défense, et tu récupères un point d'action, ou alors il se relève, il devient invincible, et il fait une dernière action, genre tirer dans la tête du mec qu'il a eu, ou alors il contre, tout simplement. On a le navire, donc j'ai dit, mais le navire intervient aussi en bataille, tu peux donner un grosso modo pour faire rapidement un ordre, mais un gros ordre, genre ramène-moi un tank s'il te plaît, ouais ok, tu peux me faire un coup de radar là pour savoir qui y a, ouais pas de soucis. Donc voilà, il y a quand même des nouveautés qui sont apportées et qui sont distillées dans le temps. Là je suis à 20 heures de jeu, j'ai encore des nouveautés, donc c'est vraiment intéressant, et voilà, je recommande, c'est vraiment Valkyrie Chronicles 1-2, donc allez-y si vous avez aimé le 1, voilà pour ma part.
On conseillerait pas plutôt le 1, enfin, parce que j'ai joué sur PS3 au 1 quand il est sorti, j'ai souvenir d'un jeu qui m'avait accueilli au début, j'avais même presque l'impression de me déplacer librement dans un univers très joli, enfin, vraiment esthétiquement presque, non je veux dire on me disait voilà un jeu stratégie et j'avais l'impression de me déplacer librement et de découvrir presque par accident au bout de quelques heures de jeu qu'en fait c'était très riche et complexe et j'en étais déjà arrivé à faire des choses complexes. Là j'ai trouvé que le jeu m'accueillait pas tellement, bon j'ai pas joué longtemps pour l'instant donc peut-être ça décolle après, j'ai eu l'impression que j'avais effectivement des longs passages visual novel. J'avais des tutoriels sans arrêt.
Pour te rebuter.
En soi, non. Mais là, il y avait du tutoriel. J'ai l'impression que toutes les minutes, on me balance un nouveau truc, un nouveau. J'ai envie de l'essayer. J'ai envie d'essayer mon nouveau jouet et boum, on me renvoie un autre. J'ai pas le temps.
Honnêtement, au bout de 20 heures, j'avais encore des tutos.
Moi, j'ai dû faire 1h30, 2h. Pour l'instant, je suis pas rentré dedans. Alors, tu disais qu'il fallait du temps, alors que le premier, j'ai le souvenir de vraiment être rentré comme ça.
Je suis assez d'accord. J'ai mis moins de temps à rentrer dans le 1 que dans le 4. Tu as raison. Je pense. Alors. Si vous avez fait le 1, vous avez adoré le 1, vous pouvez aller sur le 4, c'est la même chose. Dites-vous que vous allez refaire un peu le même voyage avec une autre histoire, tout ça. Mais si vous n'avez pas fait le 4, d'autant que là, il va ressortir sur Switch, faites le 1. Le 1, il est aussi bien, il est moins cher et il est aussi beau. Et c'est une belle. Si jamais ça vous plaît, vous pourrez passer au 4. Et voilà, parce que là, il coûte quand même ses 60 euros. Donc le 1, il coûte plus grand-chose. Maintenant, on le trouve régulièrement en solde. Moi, je dois l'avoir pour 10 euros et j'ai passé un très bon moment. Donc je suis assez d'accord avec toi sur cet aspect rentrer plus difficile dans ce gros masque est Valkyrie Chronicles.
Mais au niveau du système de jeu, Erwan, c'est toujours quelque chose qui...
Oui, sauf que je sais pas, c'est peut-être moi aussi, j'ai trouvé que j'essayais de déplacer mes unités, les mettre bien au bon endroit, et puis après, il fallait viser. Je mettais bien mon viseur sur le personnage et je tirais très très loin à côté à chaque fois. Donc,
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est ils ont transformé le pourcentage de réussite de tir dans un XCOM en tir, et en fait, t'as une zone en fait, de probabilité de là où va attirer ton tir, et bah si tout le rond est dans la tête de ton personnage, bah c'est bon, t'es sûr de mettre le coup, c'est un 100%. Mais par contre, s'il y a des espaces autour, tu peux mettre la balle là, et je trouve ça très intelligent d'un point de vue game design. Ça rend la chose plus dynamique, plus sympa et moins statistique comme on peut avoir dans d'autres
vous
jeux.
Vous avez 73% de chance.
Peut-être j'avais envie qu'on me laisse gagner la toute première mission facilement pour me dire vas-y, tu peux y croire.
L'IA est très très conne au début, tu peux t'approcher, ils te feront pas de mal. Ah oui, puis le jeu, je trouve plus facile que le 1 aussi, beaucoup. Un peu trop facile peut-être.
D'accord.
Voilà. C'est sur PC, PS4, Xbox One, Switch, ça coûte 60 euros. Voilà, et c'est Sega.
Valkyria Chronicles 4. Allez, c'est le moment tant attendu. Si je n'en parlais pas, je pense qu'il y aurait une manifestation. Hein.
Oui.
Dites-moi oui.
De R1 tout seul, mais...
De R1 tout seul. C'est le moment de parler de NBA 2K19. You never cared about anyone but yourself, AI. And until you do, this is exactly as far as you'll go. You want to get to the next level? This is what you have to do. Let's see who scores the most points tonight. Look, enough talk. Let's play. You just tried to run before you could crawl. Learn how to crawl. See through the dark, push through the rain. Numb to it all, I'm acquainted with the pain. AI, we have one game left this season. The question is... Rock, ice,
Are you up for it?
AI et NBA 2K19, allez, je le prononce une fois bien. En fait, c'est NBA 2K18 plus 1. On est en plein dedans là.
C'est comme FIFA mais avec du basket quoi.
C'est ça. C'est ça. Alors pour le coup voilà, les NBA 2K ont évolué avec le temps évidemment, avec plein de choses, c'est devenu une machine énorme à chaque fois qui propose une sorte de montagne de contenu, de montagne de modes de jeu entre le general manager qui va suivre la vie d'une équipe et décider des acquisitions et des tactiques et jouer les matchs. Entre évidemment le mode central, en tout cas à mon avis, qui est le mode carrière, où on va suivre un joueur avec une histoire, un scénario.
Avec de la full motion vidéo, non ? Il n'y a pas eu ça à une époque ?
Non, là on est sur la motion capture très, très classique. Et puis plein d'autres modes de jeu, mode Ma League, les cartes à collectionner.
Aussi alors ?
Évidemment. Alors pour le coup, là ça commence à se voir très, 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 très beaucoup. Le fait qu'ils ont envie de se faire des sous en plus de l'achat du jeu, hein, parce que on est sur le micro-paiement.
T'achètes ton jeu, il faut que tu rachètes des.
Non,
des
alors tu n'es jamais obligé.
Ce mode de jeu-là,
jamais
voilà,
obligé.
Ah oui,
jamais,
okay, là, c'est important.
Il y a une monnaie virtuelle. Il y a une monnaie virtuelle, mais voilà, elle est un peu plus rapide à acquérir que les années précédentes, en tout cas que la NBA 2K18. Mais c'est pas encore ça. Et en fait, tu en gagnes un peu avec chaque match en fonction de tes performances. Sauf que tu as beaucoup d'endroits où la dépenser dans le jeu. Et ce qui fait que c'est une incitation. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller un peu plus vite pour faire progresser ton joueur, si tu as envie de ne pas te prendre tôle sur tôle sur tôle et de modifier, d'améliorer un peu ton équipe.
C'est donc
etc.
un RPG hein, avec les compétences, etc. Ah, on y arrive, au contre, ah, oui, passe, 3 points. Enfin, voilà, c'est un RPG.
Alors, dans le mode ma carrière, c'est pas choquant d'avoir un RPG, de faire progresser un joueur, de le faire devenir meilleur pour devenir un des meilleurs de la NBA.
Même
etc.
FIFA s'y est mis. Hein, donc,
Oui, et ça a été parmi les premiers comme ça à faire ce. Un mode scénario, on se souvient de l'intervention à un moment de Spike Lee, qui n'était pas forcément la meilleure saison, avec une vraie histoire. Alors, NBA 2K18, l'année dernière, avait un léger problème. L'histoire était naze de chez naze. C'était horrible. En plus, il y avait ce quartier, le neighborhood de NBA, ce qui fait qu'on se retrouvait avec son personnage au milieu d'un quartier hyper long, ce qui était pénible, ce quartier, parce qu'il y avait des rues, et puis pour aller jusqu'au terrain...
Des rues dans un quartier ? Non, mais scandale !
C'était juste long, t'avais juste l'impression de perdre ton temps pour aller à l'entraînement, pour aller chez toi, pour aller chez ton agent, pour aller chez le coiffeur.
Vous avez pas mis de raccourci. On pariait sur les vrais matchs NBA.
Et on pariait sur les vrais matchs NBA.
J'oubliais tout le temps où était la boutique de Franck. Enfin, c'était une catastrophe.
C'est ça. Alors là, ils ont en fait, quand je disais que c'était un NBA 2K18 plus 1, c'est-à-dire qu'on garde tout ça, sauf qu'on a tout simplifié. C'est-à-dire que, notamment, il y a un menu direct pour aller à l'entraînement, ce qui est pas bête. Hein, ouais. Le quartier, en fait, c'est plus des rues, c'est une grande place. C'est une grande place avec des terrains de basket au milieu et les trucs qui sont tout autour. Donc déjà, tu as beaucoup moins l'impression de...
Ça s'assimile monde ouvert, entre guillemets.
Oui, voilà, c'est avec les autres joueurs connectés. Voilà, il y a peut-être jusqu'à 60 ou une centaine de joueurs qui peuvent être présents dans le quartier. Et puis, le grand truc, c'est le renouveau du mode story. Enfin, en fait, je crois que c'est comment ils s'appellent les gens qui font ça déjà. Enfin, chez 2K,
Visual Concept,
ils ont embauché des scénaristes. Alors, en fait, on leur avait peut-être trop dit dans NBA 2K18, vous avez pas d'histoire, c'est relou et tout ça. Ils en ont peut-être embauché un peu trop.
D'accord.
Parce que
NBA 2K, Telltale Games.
Non mais c'est ça. Enfin, je sais pas ton impression, Erwan.
Oui, non, mais je suis assez d'accord. Ouais.
C'est le mode. Il est bien. Enfin, moi. Alors, il est très premier degré, mais il est bien, mais il est long. C'est-à-dire que des fois, entre deux matchs, alors en plus, on peut pas faire pause, on peut pas sortir.
Tiens,
Et donc, t'as des séries de dialogues, t'as une histoire monstrueuse, enfin très très longue, parce que tu commences, en fait, grosso modo, le héros est high. Il a arrêté l'université, il a voulu se mettre passé pro, mais il est passé trop vite, avec trop d'ambition et un peu trop. C'est trop un connard, en fait, hein, ton personnage, en gros.
Ça, c'est du pitch.
On dit qu'il faut apprendre.
Tu peux même pas
s'attache à tout perso.
Ah non, au début, c'est vraiment trop un connard. Et bah, il arrive en Chine. Et donc, on a le droit à 3 matchs dans les Shanghai Bear, donc les ours de Shanghai. Et on a 3 matchs commentés en chinois. C'est absolument exceptionnel. Ouais. Hein. L'impact, t'es vraiment à Shanghai et tu fais des matchs. Et après, en fait, il est appelé retour aux États-Unis. Il est content, il va connaître la NBA et tout ça, sauf qu'il arrive en G-League, donc vraiment la sous-ligue NBA. Ouais, donc
il arrive... Et on le dit qu'il va jouer pour les Lakers, mais en fait, c'est pas les LA Lakers, c'est les Lakers de je sais plus où.
Ouais.
Enfin, voilà,
il revient sur Terre, quoi.
Ah ouais, il revient sur Terre et il atterrit au fin fond de pas l'Arizona, mais enfin, tout ça, au Mad Ants, les fourmis folles. Donc vraiment,
après, il est échangé,
du cul du monde.
Il est tradé contre un camion de food truck, en fait.
Donc, ça a l'air hallucinant, j'ai très envie d'y jouer maintenant.
Non, mais... t'as le petit Mike s'en souviendra, c'est ça.
Mais limite c'est ça,
mais en fait c'est marrant parce que vous vous racontez que c'est un affreux bonhomme, mais en même temps il lui arrive les pires
mais
les
c'est, apprend, donc c'est, bien. C'est apprend, un voyage imagine, initiatique bah, c'est bah, un ça, voyage initiatique jusqu'à bon. Évidemment arriver en NBA, parce que c'est quand même NBA tout
et bien ça. Gentil après.
Et ouais, il comprend un peu plus un peu plus à lui. Et le scénario continue et il y a des guests incroyables. Il y a Karim Abdul-Jabbar,
salut, c'est Spike Lee.
Évidemment il y a tous les légendes du basket, il y en a plein, et tout est filmé évidemment en motion capture. Enfin voilà, tout est très bien fait. Alors voilà, c'est un peu long, il y a un peu trop de scénario. Le mode de GM, donc le general manager, c'est pareil, t'as des scénarios à n'en plus finir,
c'est aussi le but, non, enfin c'est,
alors en fait le seul truc c'est que moi j'ai envie de dire à Visual Concept, embauchez, il y a des gens de Telltale
qui sont
dispo là, ouais. Et ben embauchez-les, parce que en fait leur truc, avec en plus quelques notions de jeu d'aventure, genre avec des choix, un peu plus de choix de dialogue.
Il y a des choix dans les dialogues.
Ouais, mais bon, tous les heures, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on a.
Oui, mais quand même, c'est quand il y a toutes ces phases cinématiques, tu peux pas complètement aller faire autre chose, parce qu'il faut quand même être un peu présent, ouais. pour faire des choix.
Moi, c'était juste le moment où mes enfants m'appelaient, donc en fait, je partais, et quand je revenais un quart d'heure plus tard, la cinématique n'était pas terminée, et donc j'avais un peu perdu le milieu de l'histoire. Enfin, c'était assez étonnant.
Vous y jouez sur... pas faire Home? Non. Je suis pas sûr que tu joues.
Ah, c'est ça. Tu joues sur quoi, sur en PC, fait. Moi, mais
Altab.
Ça m'était pas pause, en tout cas. C'était assez.
Ah, il y a un problème. Moi, je joue sur Switch, et si tu fais Home, après la console se met en veille, et du coup, tu perds ton truc parce que apparemment le jeu a besoin de se connecter à Internet. Oui. Donc, t'as perdu ton mode carrière. T'es obligé de relancer la connexion pour reprendre la sauvegarde automatique précédente.
Ça,
c'est moyen. Sur Switch, il tourne très bien. Alors que celui de l'an dernier, il était sorti, le NBA 2K18, donc. Comme on dit ici, il était sorti dans un état pitoyable avec le son décalé par rapport à l'image sur les cinématiques.
C'était horrible.
Il y avait eu des mises à jour, ils avaient réglé le problème, et là ça va.
Oh mince, voilà. Oh mince, la console est un succès, vite,
il n'était pas comme Elle est Noire avec une grande banderole, attention, gros téléchargement.
Ça y est, là, ça y est toujours. Ouais.
Toujours, hein. Ouais. Gros téléchargement.
Bah, moi, je l'ai eu en version cartouche, il a téléchargé, fait des mises à jour, il prend, je ne sais plus si c'est 25 ou 28 gigas sur la carte mémoire. Ouais, je ne comprends pas comment c'est possible sur un jeu vendu en cartouche.
Et alors, pour le reste du jeu, parce que là, c'est le mode de ma carrière. Pour le reste du jeu, c'est vraiment, on est à 18 plus 1, c'est-à-dire que les matchs sont, le gameplay est quasiment identique. Pour les puristes, on pourra remarquer que, par exemple, le tir, en fait, il demande une défense très serrée, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de se décaler un tout petit peu. En fait, grosso modo, il prend beaucoup plus en compte dans la réussite de ton shoot si c'est un shoot ouvert, un shoot avec une grosse défense, un shoot avec une petite défense, et là, ça change complètement les stades, les stats où le panier rentre ou pas. Donc il faut vraiment défendre serré ou pouvoir se décaler, dribbler, se décaler ou faire des écrans. Les écrans, ça marche super bien dans cette version. Mais pour le reste, on est vraiment quelque chose de très... Les vestiaires sont... En fait, c'est un peu gênant à... On arrive à un point un peu gênant. L'appart du joueur, c'est le même. L'agence de pub, c'est la même. Enfin... Tous les décors restent les mêmes. On a vraiment l'impression de jouer au même jeu. Les terrains de jeu, c'est les mêmes. Les vestiaires, enfin tout. Et le gameplay est à peu près identique. Je réitère, je ne sais pas si j'avais dit l'année dernière, il y a des entraînements. Ne vous entraînez qu'à un seul truc, c'est le lancer franc. Parce que tant qu'on.
Je suis catastrophique au lancer franc.
C'est le lancer franc. En fait, le lancer franc n'est pas une statistique que tu peux augmenter dans ton joueur.
C'est il y a toi
que
à l'augmenter.
Voilà, il faut juste faire de l'entraînement. Et tant qu'on n'a pas le badge argent en lancer franc, on ne peut pas en rentrer un. Donc il faut persévérer et il faut s'entraîner tant que temps pour décrocher le badge argent. C'est le seul conseil de jeu.
C'est qu'il y a toujours le choix entre pour les tirs, les passes, entre faire ça au bouton et faire ça au stick. Ouais. Je sais pas depuis combien d'années ils ont introduit la possibilité
3,
de faire ça
4,
au stick sans l'imposer. Ouais. En fait, c'est qu'on joue toujours comme on.
Il le fait à la souris.
Non, faut pas déconner. Mais ceci dit, voilà, ça reste
à la guitare.
Mais ça reste une référence incontournable du jeu de basket. Évidemment, il y a pas de concurrent réel.
Il y a NBA Live qui est ressorti cette année. Je sais pas ce qu'il vaut, mais
Je pense qu'il peut.
Il en faudra quelques éditions.
En général, il l'annonçait, il annulait à la dernière minute. Là, il est sorti, semble-t-il. Ouais.
Ah, il faudra peut-être que je.
Semble-t-il, il a fait.
C'est ça.
Mais je crois qu'il est pas sorti en
il
boîte.
Il a fait couler de l'encre, apparemment.
Voilà, c'était NBA. Tu as d'autres choses à rajouter, Erwan? Je sais pas.
Juste un truc, moi je suis allé voir un peu dans les menus tout ce qu'on pouvait paramétrer, tout est paramétrable et ça me fascine un peu dans une période où on parle beaucoup de développement de l'e-sport et qu'on imagine une standardisation des jeux pour que tout le monde puisse s'affronter. Là tout est paramétrable, à la limite deux personnes qui jouent à NBA 2K19 ne jouent pas du tout au même jeu, enfin, c'est vraiment chacun son.
Moi il y a un truc que je comprends toujours pas et c'est depuis NBA 2K, depuis tous les NBA 2K mais même avant les autres jeux, c'est en fait la durée de, en fait en NBA le truc important c'est les stats, vous le savez, hein, c'est le nombre de points, le nombre de rebonds, le nombre de passes, le nombre d'interceptions, c'est toutes les stats. T'as des à trois chiffres après la virgule, etc. C'est super. Sauf que, eh ben, en fait, par défaut, ils jouent avec des cartons de 6 minutes. Et en fait, c'est impossible d'avoir des stats réalistes avec des cartons de 6 minutes parce que les cartons, dans la vraie vie, ça dure 12 minutes. Donc, en fait, dans tous les jeux de basket, tout le temps, il faut aller dans le menu pour remettre les cartons à 12 minutes, ce qui fait des parties très longues. Mais c'est la seule option valide pour avoir des stats cohérentes avec le reste de la NBA, en fait. Donc, voilà, c'était toujours. Je comprends pas ce truc-là, en fait. C'est très étrange.
Mais c'est sinon, quand c'est long, enfin, moi, je fonctionne beaucoup au moral. C'est-à-dire, quand je commence à louper des panier, après c'est la catastrophe, ça s'enchaîne et sur des matchs à carton de 12 minutes là je finis par me jeter par
bref,
la fenêtre.
Bref, on a explosé les compteurs, mais c'est pas grave,
franc par la fenêtre, voilà.
Je me auto-lancer franc, mais c'est pas grave, la semaine prochaine ce sera peut-être aussi un peu chéri. Le programme est tendu, hein, en ce moment, hein, pour
c'est Noël.
Bon bah c'est fini pour cette émission pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais à laquelle vous la répondez très très vite parce que quand même on commence à dépasser beaucoup. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Du sang, des larmes et des pixels de Jason Schreier.
J'ai déjà fait.
C'est mon tour. Laisse la place. 3 mai 2018, c'est sorti. Donc c'est plutôt pas si vieux, même s'il est sorti l'année dernière aux États-Unis. Donc ça parle en fait de tous ces jeux qui ont une gestation très compliquée, mais qui au final se sont révélés être des bons jeux ou des succès ou les deux. Donc parmi
ont été annulés, hein, pour certains.
Tu me casses mes effets. Il parle de Diablo 3 qui n'a pas été annulé, il parle de Stardew Valley qui n'a pas été annulé. Dragon Age Inquisition, The Witcher 3, Destiny, Uncharted 4 et un dernier jeu mystère qui lui a peut-être pas eu une destinée aussi intéressante que les autres. J'ai peut-être oublié des jeux, mais bref, c'est très intéressant parce que c'est vraiment c'est de l'article de fond plus, c'est-à-dire c'est beaucoup d'entretiens, c'est vraiment très sérieux. Le monsieur qui bosse chez Kotaku et qui a bossé aussi pour, je crois, The Verge, New York Times, plein de choses, est très sérieux dans son travail. Il a utilisé, je pense, toutes ses chutes d'interviews pour constituer cette espèce de recueil, en fait, d'expérience de développeur. Le crunch revient très, très souvent. La relation avec les éditeurs, la négociation des dates, des délais supplémentaires, de comment on peut avoir 3 francs 6 sous en plus pour ne pas mourir, ou ce genre de choses. Ça permet d'avoir un vrai insight intéressant sur comment on fait des AAA, et même dans le cadre de Stardew Valley, comment on fait un jeu seul dans son coin, avec juste sa copine qui bosse en tant que serveuse, je crois, pour... C'est son éditrice finalement, c'est assez intéressant. Mais voilà, c'est je vous le conseille. La traduction peut être un peu le style peut parfois être un peu, mais bon, parce que j'avais lu d'autres livres mieux traduits avant. C'est chez Manabooks, ça coûte entre 15 et 20 euros.
Patrick.
Ouais, alors je vous avais parlé la semaine dernière de ma déviance pour les premières adaptations de jeux vidéo en film. Là, je vais vous parler d'une autre de mes marottes actuellement. Je me suis pris de passion pour les suites de grands films. Alors, je vous parle pas des directs ou vidéos genre American Psycho 2, hein. Oui, ça existe, avec la sœur, je crois, bref. Non, moi, je vous parle de ces années 70-80 où on osait tout, quoi. On osait Les Dents de la Mer numéro 2, que moi, j'aime bien. C'est un film que j'aime bien, qui est souvent très critiqué, parce que évidemment quand on passe après Spielberg, et moi j'aime bien ce film, et j'ai revu tout dernièrement, j'avais déjà vu, mais j'ai eu le plaisir de m'y replonger, c'est Psychose 2. Alors évidemment...
Oui, j'allais en parler. Il y en a eu à 3, je crois.
Il y
en
a 3, il y en a 4.
Il y en a un où en vrai, sa mère n'est pas morte. Enfin, je crois qu'il y a des histoires comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais non, c'est assez flou dans mon...
Mais ce qui est génial, alors évidemment, on passe après Hitchcock. Alors évidemment, on ne va pas se frotter à Hitchcock. Mais moi, Psychose 2, à chaque fois, je le redécouvre parce qu'il a un scénario complètement
complètement tarabiscoté. C'est un film de 83. Anthony Perkins est toujours fabuleux. Enfin, moi un film juste où tu filmerais Perkins, je suis fan. Non, mais le film est vraiment bien fichu. Je trouve qu'il remet, il arrive vraiment à s'encastrer dans le film original. Hein. Il est un peu mal foutu, mais il y a plusieurs couches de scénario dedans. Il y a plusieurs intrigues et il marche bien au final. Et je trouve que on savait faire à l'époque Les Dents de la Mer, qui est une suite pour moi réussie, qui apporte aussi quelque chose. C'est sur des films qui n'ont pas eu très bonne presse à l'époque, mais quand on les redécouvre aujourd'hui, je trouve qu'ils osaient quelque chose et ils osaient exister après.
Et s'il y avait eu un Vertigo 2 ?
Oh là, alors là, attention. Oh là. C'est une bonne question.
Non, mais est-ce que je te vois emballer.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que Psychose 2 réussit le truc. Le 3, il faut que je le revoie. Il y a un petit moment que j'ai pas vu le 3. Il est peut-être un peu plus compliqué, mais le 2 marche bien. Et à voir. Moi, je le conseille. Voilà.
Erwan.
Moi, je regarde, je rattrape même Lucky Louie, qui est une sitcom de 2006 de Louis C.K. Qu'il avait fait avant sa série Louis. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a tout le côté. À la fois autodépréciateur et puis en même temps one man show et en même temps trash et transgressif de Louis qui est déjà là dans la forme sitcom. Louis C.K. on en a parlé pour des histoires un peu pas très glorieuses où il empêchait un peu des comédiennes sur qui il avait un peu du pouvoir de sortir de la pièce où il était pendant qu'il enlevait une partie de ses vêtements à lui pour faire des choses devant leurs yeux qu'elle n'avait pas forcément envie de regarder. Donc voilà, il y a toujours la question, est-ce que du coup on boycotte ce qu'il a fait ? Pour moi du coup on a l'information que Louis C.K. est un porc, mais voilà, c'est une information parmi d'autres qui m'intéresse pour regarder cette série-là. Et la série, je l'aime aussi pour une actrice qui s'appelle Pamela Adlon, hein, qui est co-scénariste de certains épisodes, qui a aussi écrit des épisodes de Louis, qui a maintenant sa série qui s'appelle, je l'ai noté, Better Things, et qui est une actrice formidable. Voilà, donc ne jetons pas tout Louis C.K. à la poubelle, ne serait-ce que pour voir Pamela Adlon.
Lucky Louis. Eh ben moi je continue sur les podcasts et cette fois-ci c'est alors j'avais écouté les trois premiers épisodes à la rentrée 2017. C'est Entre de Louis Média. Entre c'est 27 épisodes je crois ou 26 qui se sont déroulés entre septembre et juin 2017. Ça, et c'était la première saison. Enfin bref, c'est Louis Média, c'est Charlotte Pudlowski qu'on connaît parce qu'elle bosse notamment avec Slate sur le podcast Transfert. Et elle a suivi pendant 27 épisodes une année scolaire de Justine qui rentre en sixième. Et quand on rentre en sixième, on rentre dans l'adolescence, on sort de l'enfance. Et juste écouter les deux ou trois premiers épisodes, je pense que vous aurez envie d'écouter la suite. L'ensemble est assez incroyable, le résultat est assez incroyable entre l'exceptionnel, l'extraordinaire, le quotidien, tout ça. Et puis cette Justine est c'est assez fou. Et bref, voilà, c'est Entre de Louis Média sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Voilà, merci messieurs pour cette émission cette semaine. On se retrouve très bientôt. À la réalisation, j'ai oublié la semaine dernière, c'était Quentin. Cette semaine, c'est Jules Gélaoui de Binge Audio. Voilà, et puis on se retrouve donc très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.
Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.